Bon, ben on va commencer, non?
Eh ben c'est parti, Arav Shavua
Après
Tov.
une interruption terrible, la veille de Shavuot, tout ça, on n'a pas pu se rencontrer. Alors, je crois que nous allons continuer le Rota Tchouva comme à notre habitude. Et nous sommes arrivés au chapitre Yudbet. Alors maintenant, il y a un petit problème technique, c'est que dans la version présentée sur cet écran, il manque un passage. Le passage qui manque, c'est Vav 1. C'est-à-dire que vous avez le passage Vav et le passage Zayin, mais il vous manque le passage supplémentaire qui a été rajouté dans les éditions postérieures et qui porte le beau titre de Vav Echad, ou Vav 1, si vous voulez, en français. Et donc, je n'ai pas le choix, je vais être obligé de vous l'enseigner. Même si vous n'avez pas le texte, c'est un passage assez court.
Très
Donc, je
bien.
pense qu'il n'y a pas de problème. Nous allons nous y mettre.
Arav,
Oui.
comment se fait-il qu'il manque des passages dans certaines éditions? C'est des choses qui ont été rajoutées après?
Oui, c'est ce que j'explique. C'est des éditions postérieures dans lesquelles c'est en général signalé par une petite étoile et par un numéro 1 ou 2. Et alors dans l'édition que tu mets sur écran, en général, on a rajouté les passages manquants, mais pas tous. Voilà. C'est la triste réalité. Mais je pense que nous en avons vu de plus dur et donc je pense que nous allons pouvoir tenir le coup face à cette adversité. Voilà. Bon, alors j'en suis ici. C'est un passage de 5 lignes. 5 lignes, donc, je parle ici de l'édition que je tiens, c'est l'édition de Or Etzion. Et bon, c'est un truc tout bête, mais très important quand même. Quand on fait Teshuvah, on est souvent en contact avec des choses extrêmement sublimes. Et le sublime, en général, amène à mépriser le minime, les petites choses, les convenances, les halachot. Par exemple, quand je pense à la création du monde, c'est quelque chose d'énorme, de gigantesque. Mais le jour qui commémore la création du monde, c'est le Shabbat. Or, le Shabbat, on me dit comment est-ce qu'il faut faire un verre de café? Et s'il faut mettre l'eau chaude avant le café ou le café avant l'eau chaude? Et qu'est-ce qu'il en est de la goutte de lait que je veux rajouter? Et puis mélanger avec la cuillère, tout ça, il y a des halachot. Vous allez me dire, mais ça c'est très intéressant, mais quel rapport ça a avec la création du monde? Donc, est-ce que si je pense à la création du monde, je suis dispensé des petits détails? Alors, c'est ce que nous dit ici le Rav Kook, on n'est jamais dispensé des petits détails. Voilà, je vous lis ici maintenant dans le texte. Kol ha-chokhmot ve-hasagot sheba'olam, toutes les sagesses et les intellections du monde, enan mafkiot et trovat ha-teshuvah ma'asit, ne dispense pas du devoir de la teshuvah pratique, bemamash ufoal, dans sa réalité et dans son action. Et là, chez Meirot, les Fanéa et Adrachim, mais ça éclaire ses cheminements, c'est-à-dire ce que fait la grande sagesse, elle ne fait que mieux éclairer les petits détails, c'est-à-dire en d'autres termes, mieux je comprends, plus je comprends ce que c'est que la création du monde, plus je comprends pourquoi est-ce qu'il y a une certaine manière de faire son café le jour du Shabbat. Kol hagadlut shebaolam, toute la grandeur du monde, eina meziza kol dehu mitviot hakatnut, ne déplace absolument pas les exigences de la petitesse. Et là, nous avons ici une parabole, peut-être un peu, disons, crue. Kemo shen shum gdoula shebaolam, poteret ou mafkia shum tafkid, gufani gam hashafal shebashfalim. De même que toute grandeur ne dispense pas de toute action physique, même la plus basse. C'est-à-dire, en d'autres termes, sauf votre respect, même si vous êtes président de la République, vous devez aller aux toilettes. Et là, shagadlut madricha et adam bioto mikabel la grandeur nous inspire de quelle manière se comporter, même dans les toutes petites choses, de sorte que ces petites choses, elles aussi, s'élèveront et deviendront des grandes choses. Voilà, c'est ça le passage du Rav Kook qui n'était pas sur le texte de l'écran et que nous avons parcouru, je pense, pour le profit de tout le monde. Et puisque c'est comme ça, nous allons passer à Zayin. Voilà. A Teshuva Kadma Laolam. Bon, c'est une idée bien connue. La Teshuva a précédé l'existence du monde. C'est le Midrash qui le dit. Il y a sept choses qui ont été créées avant la création. Une des sept est la Teshuva. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bon, alors, on peut dire, ça veut dire quoi, que quelque chose est créé avant le monde? Ça veut dire que nous avons besoin de ces choses-là pour que le monde puisse tenir. C'est-à-dire, par exemple, le monde risque de s'éloigner de sa source, et donc il faut qu'il y ait une assurance au départ que l'on peut revenir à la source. C'est ce que dit la Teshuva. C'est-à-dire, si je ne suis pas sûr que je peux revenir à la source, je me demande si ça vaut la peine de commencer toute l'entreprise de la création. Donc, il fallait que la Teshuva soit assurée avant la création. Mais là, le Rav Kook veut en tirer une conclusion encore plus large. Hamoussar makif et hakol. La morale englobe tout. Ça veut dire quoi? C'est, disons, on peut dire que c'est en opposition totale, quasi absolue, avec l'enseignement de la philosophie grecque. La philosophie grecque connaît la morale. Elle appelle ça l'éthique. Pour les Grecs, la morale, c'est le mode de comportement idéal des humains. On pourrait dire à la limite que l'homme, connaissant sa faiblesse par rapport aux forces de la nature, a inventé la morale. Et pourquoi est-ce qu'il a inventé la morale? Pour pouvoir se défendre. C'est-à-dire, il y a la défense des faibles, et il y a également les armes des forts. Alors, les armes des forts, c'est la force. L'arme des faibles, c'est la morale. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'univers tout entier? L'univers tout entier est un grand système de force aveugle et, pourrait-on dire, impersonnelle. Et donc, la morale ne serait qu'une petite bulle. C'est-à-dire, la morale serait un accident de la création. Dans le cadre de la création, nous avons également la morale. Par contre, pour le Rav Kook, c'est le contraire. La morale est primordiale, elle vient avant le monde. C'est-à-dire que même les lois de la nature, les lois impersonnelles et aveugles qui nous gouvernent, répondent à un projet moral antérieur. Et donc, ça explique pourquoi, si vous avez un Grec et un Juif qui sont assis sur un banc, et que à côté du banc passe un tzaddik, un juste, et que le juste marche sur une peau de banane et se casse la jambe. Alors, le Grec en tirera une conclusion. C'est que toute personne qui marche sur une peau de banane selon un certain angle glisse et se casse la jambe. Il a découvert une loi de la nature. Par contre, le juif qui voit le tzaddik qui s'est cassé la jambe se dit, mais enfin, pourquoi est-ce que la banane n'a pas tenu compte du fait que c'est un tzaddik qui lui marche dessus? Il y a un problème moral, une sorte de scandale auquel le juif exige une réponse. Alors, il n'a pas toujours la réponse, mais la question se pose. C'est la question du livre de Job. Job, qui est un vrai sadique, connaît toutes les souffrances imposées par la nature. Et là se pose la question, mais pourquoi? C'est une question que jamais un Grec n'aurait posée. Et parce que pour le Grec, c'est la nature qui vient avant la morale, tandis que pour le Juif, c'est la morale qui vient avant la nature. Et donc, il va falloir trouver des réponses. En tout cas, c'est ce que dit ici le Rav Kook quand il dit à Teshuva Kadma Laolam que la Teshuva est venue avant le monde. Hamoussar, Makif et Hakol, la morale englobe tout. Où est-ce que le Rav Kook a été chercher tout ça? Comment est-ce qu'il sait que la morale est primordiale? Eh bien, c'est très simple. D'après le judaïsme, je tiens à vous le rappeler, le monde est le fruit d'une volonté. Il y a une volonté créatrice. Le bon Dieu a voulu que le monde soit créé. Si c'est une volonté et non pas une nécessité, alors une volonté implique la liberté. Là où il y a liberté, il y a le bien et le mal. Et donc, on peut dire, la morale vient avant tout, englobe tout, c'est une donnée fondamentale du principe de la création. Ha'erech ha'elyon ha'mukhlat mitpaleshu b'chol anfei anafim. C'est-à-dire que la valeur suprême, qui est donc la valeur morale, s'épanche dans tous les embranchements, dans toutes les branches des branches, c'est-à-dire les embranchements différents sont l'expression d'une valeur suprême. Amaaseh amistaef she'eino mechuvan leshorsho chozer limkoro bi'ilui haratzon. Et l'action débranchée ou enfin embranchée qui n'est pas en accord avec sa racine revient à son origine par l'ascension de la volonté. Expression un peu sibylline, mais c'est très simple. Ce que dit le Rav Kook, c'est que dans la racine du monde, il n'y a pas de mal. Mais dans les embranchements, il y a le mal. C'est-à-dire, par exemple, Dieu m'a donné la vie. C'est en soi une très belle chose. Et je me sers de ma vie pour faire le bien. Très belle chose. Je me sers de ma vie pour faire parfois le mal. Ah, ça s'appelle une branche qui est à l'encontre de son origine, de sa racine. C'est ça le péché. Et comment donc réparer le péché en rebranchant, pourrait-on dire, l'action qui s'est déconnectée, en la rebranchant à son origine par l'élévation de la volonté. C'est quoi l'élévation de la volonté? J'élève ma volonté à son origine et alors je fais teshuva. Voilà, c'est ça le grand principe. Vous savez que dans une petite phrase, le Rav Kook en fait implique des idées métaphysiques extrêmement développées. Voilà. Maintenant nous allons passer, puisque nous avons fini Zaï, nous allons passer à Chet. D'ailleurs, comme peut très bien le remarquer David, tu vois qu'après Chet, il y a Chet avec une astérisque, petite étoile. Eh bien, c'était le cas également du Vav et du Vav étoilé. Mais voilà, bon. Donc, on voit que le travail a été fait quand même, partiellement. Bon, je reviens donc à Chet. « Ateshuva ha'elyona ba mitrifa pnimit ayotset midrifa chitsonit elyona » Traduction. La teshuva supérieure vient d'une poussée intérieure qui a son origine dans une poussée extérieure suprême. Vous avez compris? Très simple. Bon, alors, essayons de diviser cette phrase dans ces différentes parties, tout est clair. A teshuva ha'eliona, la teshuva supérieure. C'est quoi la teshuva supérieure? Il y a une teshuva inférieure. La teshuva inférieure, c'est tout bête, hein, c'est simple, j'ai peur de mes péchés, je vais être jugé, je ne veux pas être jugé et être condamné, donc je fais teshuva. Ou bien je vois la souffrance que me cause le péché, et donc je fais teshuva. Mais tout ça, ça s'appelle la teshuva inférieure, la teshuva qui est motivée par des raisons plus ou moins nobles. Par contre, la teshuva éliona, la teshuva supérieure, a son origine, c'est la teshuva que je fais pour des raisons purement idéales. Je fais teshuva parce que je suis conscient de la valeur du bien et de la dépréciation du mal. Je vois que le mal, c'est mal, je vois que le bien, c'est bien à l'absolu. C'est ça la teshuva supérieure. Alors d'où est-ce qu'elle me vient, cette teshuva supérieure? Qu'est-ce qui m'amène à faire une teshuva idéaliste? Eh bien, ça vient d'une poussée intérieure, c'est-à-dire quelque chose dans mon intériorité qui veut s'exprimer. L'intériorité en question, c'est ce qu'on appelle l'âme, la neshama. Du point de vue de ma neshama, je suis entièrement pur et j'aspire à la pureté absolue. Eh bien, de l'intérieur, il y a une poussée qui m'amène à faire la teshuva supérieure. Donc, la moitié de la phrase est claire. A teshuva ha'eliona, ba midechifa penimit. La teshuva supérieure vient d'une poussée de l'intérieur. C'est-à-dire quelque chose dans mon intériorité s'exprime et m'amène à faire teshuva. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à cette poussée intérieure? Il y a une poussée extérieure et supérieure. C'est quoi? Il y a un appel qui m'est venu de très haut, qui est entré dans mon intériorité, et c'est cette intériorité qui s'exprime vers l'extérieur et qui m'amène à faire la teshuva supérieure. Mais ça vient de très très haut. C'est comme on pourrait dire quelque chose de cosmique qui s'est introduit en moi à la manière d'un éclair et qui fait que mon intériorité a commencé à réagir. Ayotzet midechifa chitzonit eliona. Cette poussée intérieure vient d'une poussée extérieure suprême. C'est-à-dire que ça vient d'en haut. On pourrait donc dessiner ça de cette manière. Quelque chose d'en haut rentre dans l'intériorité. L'intériorité veut s'exprimer vers l'extérieur et ça amène à la teshuva supérieure. Ah, c'est plus clair maintenant. En fait, ça tombe sous le sens, mais ça va mieux en le disant. Et c'est quoi la dérifa chitzonit eliona? C'est quoi cette poussée extérieure suprême? Le Rav nous l'explique dans la suite. Kol haolam kulo achomru baruchani, le monde entier matériel et spirituel, musagu betsurato ahardutit, est conçu par sa forme unificatrice. C'est-à-dire, je peux voir le monde entier comme une seule et grande unité. Hamusar ayashar vehatov ou Amerikaz aretzoni shel ayesh. Et donc, la morale, droite et bonne, est le centre volitif de tout être. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, le Rav Kook? Ce que nous avons commencé à expliquer dans le passage précédent. La morale n'est pas un accident de l'être, elle est l'expression révélée de quelque chose qui se cache dans tout le cosmos. C'est-à-dire dans tout le cosmos, il y a une équation morale et elle s'exprime dans son centre par la morale révélée. Le fait que brusquement, moi qui suis un homme, je découvre en moi la morale, c'est-à-dire le choix entre le bien et le mal. Amerkaz az bifratiyut ha'chayim mukhrach le'atim im kol ha'makif im kol ha'avaya. Ce centre, c'est-à-dire la moralité que moi je ressens, bifratiyut ha'chayim dans l'individualité de la vie, c'est-à-dire dans mon moi à moi, mukhrach le'atim im kol ha'makif doit nécessairement être en harmonie avec toute la périphérie. Imkol Avaya, avec tous les êtres, ben bitrunato apnimit, que ce soit dans son caractère intérieur, ben bigiluya vachitsonim, ou que ce soit dans ses manifestations extérieures. C'est-à-dire que le Rav Kook dit, ma tendance à la morale, c'est une exigence qui vient de la nécessité d'être en accord avec l'ensemble des êtres. C'est ce qui suppose que l'ensemble du cosmos est moral, et donc je dois m'adapter à cette moralité universelle. Al-yede akarap nimi bemamake alev, mais à yosher ve'atov, par la prise de conscience intérieure dans la profondeur du cœur, de la droiture et du bien, noda chelek rashum me'amusa, est alors connue une partie déterminée de la morale, amufa bechol avaya betzura idealit mamashit, chaya bamutsiu, qui est présent dans l'ensemble des êtres de manière idéale, cela devient quelque chose de sensible, de vivant dans l'existence. C'est-à-dire, dans mon adaptation de mon centre, disons, de conscience, morale, mon adaptation de ma conscience morale avec l'ensemble des êtres, c'est alors que la morale universelle prend une forme sensible. Valider à Torah, Et quand il s'agit de Torah, Mitgalé hi beor kedusha, alors ça se manifeste également par une lumière de sainteté. Les chol kibbutz les fierko, pour toute société selon sa valeur, ou l'Israël betzuratoa mesuyama meod, et pour Israël dans sa forme particulière, ha'at ama ha'musarit bechol itgaluyoter, l'harmonie de la moralité, l'harmonie morale dans toutes ses manifestations. En d'autres termes, si vous êtes juif, alors votre moralité implique également un supplément, le supplément de la Torah, qui, en plus de l'harmonie que cela donne avec l'ensemble des êtres, donne également la lumière de la sainteté. Vaishiyut amotz'a beorchot chayea utrunot uchap gamim viharmonia legabe akol amuchlat. Lorsqu'une personne découvre dans son comportement et dans ses qualités intérieures des défauts et une disharmonie par rapport à l'ensemble de tout être, apnimi hamegoulé, apnimi hamegoulé aussi bien dans ce qui se cache dans l'intériorité et dans ce qui est révélé, et mitztaeret tsar en gvoul. C'est alors que cette personnalité souffre d'une grande souffrance illimitée, infinie. C'est-à-dire, quand je fais un péché, je sens en moi une disharmonie terrible avec l'ordre moral de l'univers. Omishtadelet lashuv limkor achayim vayeshut. Et donc, une personne de ce genre, une telle personne, s'efforcera de revenir à la source de la vie et de l'être. Mitraretet yaltia iotea, elle regrette ses égarements. Veshava belev nohem ou vesimchat atzala, elle revient avec un cœur rugissant et la joie de la délivrance. Tahiti, alors nous avons un verset de Tehilim dans le chapitre 119 qui est l'expression de tout ce que le Rav dit. Tahiti keser oved. Je me suis égaré comme une brebis perdue. Réclame ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements. Bon, donc, si je reprends très rapidement tout ce que nous avons vu dans le paragraphe Ret, ce que nous dit le Rav, c'est que la Teshuvah supérieure vient d'une poussée puissante de l'intériorité de l'homme, elle-même poussée par une exigence d'harmonie avec la morale cosmique, et c'est ça qui m'amène à faire une teshuvah absolue pour revenir à cette harmonie. Oui, David, mais avec plaisir, je vois que tu lèves le doigt.
Arab, cette poussée, c'est la même pour tous les Juifs ?
Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire que... c'est la même pour le monde entier. Chacun est poussé par son intériorité. Alors, chacun a une intériorité peut-être différente. Mon intériorité n'est peut-être pas la même que la tienne, ou l'intériorité d'un juif n'est peut-être pas la même que celle d'un non-juif, ou n'est peut-être pas la même que celle d'un être qui n'est pas un homme, etc. Mais de manière générale, l'harmonie cosmique est quelque chose de général qui englobe tous les êtres.
Merci.
Voilà, c'est un plaisir pour moi. Eh bien, nous allons donc passer à Chet Echad ou Chet astérisque avec une petite étoile. Ateshuva biisoda hitnoa la shuve la mikoriyut. C'est un long passage. Alors, il faut comprendre de quoi il s'agit. Le Rav Kook va nous expliquer qu'il y a une sorte de dissonance entre l'origine et les embranchements. Nous avons déjà parlé de ça. Par exemple, quand je suis né, j'avais encore le souvenir du contact avec ma neshama. Mais après, j'ai dû faire des tas de choses dans ma vie. J'ai dû finir mes devoirs pour l'école. J'ai dû balayer la cuisine, j'ai dû faire des tas de choses dans ma vie. Or, ça a créé une sorte de pesanteur. C'est-à-dire que l'existence, pourrait-on dire, l'a emporté sur l'essence. C'est-à-dire que la vie a ses fonctionnements automatiques, la vie développe ses propres valeurs et oublie son origine. À tel point que lorsqu'on me demande de revenir à mon origine, lorsqu'on me demande de faire teshuva, je sens que je vais contre la vie. C'est le problème de beaucoup de personnes qui ont une grande réticence par rapport à la teshuva ou par rapport au Baalé teshuva, parce qu'il y a une accusation qui est portée contre la teshuva. La teshuva est ennemie de la vitalité. La teshuva est ennemie de l'existence. Alors évidemment, c'est une erreur, mais il faut comprendre comment confronter cela. Alors, certains vous diront, bon, il n'y a pas de problème, il faut faire un choix. Soit on choisit la vie, soit on choisit la teshuva. Mais ce que dit le Rav Kook, pourquoi renoncer? Au contraire, toutes les pesanteurs de la vie, cette lourdeur qui nous empêche de faire teshuva, ce sont des contenus de vie, là aussi. Ils ont leur origine dans la même origine à laquelle j'essaie de revenir quand je fais teshuva. Donc, ce que dit le Rav Kook, il faut faire attention quand on fait teshuva de ne pas mépriser tous les bagages que nous avons accumulés. Il faut les amener eux aussi à leur origine. Une fois cette introduction présentée, je peux rentrer dans le texte. Voilà. À teshuva bi-soda, La teshuva est fondamentalement un mouvement de retour à l'origine. À la source de la vie et de l'être suprême dans sa plénitude, ben gvulim ou metzarim, sans limite et limitation, selon la tendance la plus noble et la plus bénéfique venant de la lumière suprême dans sa simplicité et dans son illumination. Omnam. Donc ça c'est très bien, c'est une très belle apologie de la Teshuvah. Vous voyez comment la Teshuvah, c'est bien. Omnam. Cependant, Hashetef shel haChaim, le courant de la vie, Hu morid otanu le'anafim hamitpashtim, nous abaisse dans les embranchements qui se développent. Chez Kolma, chez Mitrachakim, qui plus ces branches vont en s'éloignant, et Kolma, chez Konim, et plus les embranchements prennent de place dans les actions, Bamifal ou Vaïdgashmout, dans l'activité et dans la concrétisation, Hem Yoter Krovim, Lamet, et Maouten ou Amoukbala, entraîne un renforcement de notre essence limitée. Et c'est par ces embranchements que nous pensons être forts et puissants. C'est-à-dire, plus je fais de choses concrètes dans le monde, plus j'augmente ma puissance matérielle et pratique, c'est là que je sens que je suis fort. Ou vishulkar, et c'est la raison pour laquelle areanu margishim et atzmenu rachim vekoshlim, que nous ressentons une sorte d'affaiblissement que nous trébuchons beota hamida shetokef otanu haratzon lashuv lamakor harashi, dans la mesure où nous sommes pris de la volonté de revenir à la source d'origine. C'est-à-dire, je veux faire teshuva et je sens que ça va m'affaiblir. Cette origine qui est au-delà de tous ces embranchements, de toutes ces branches. Et à cause de cet affaiblissement de la force, l'aspiration spirituelle s'affaiblit aussi. C'est-à-dire, il y a une sorte de réticence par rapport au mouvement de la Teshuvah qui a sa justification. Je ne veux pas faire teshuva parce que si je fais teshuva, je m'affaiblis. J'affaiblis les acquis que j'ai de ma vie terrestre. Uvishvilkar, et c'est pour cela. Harenu tzrichim liyot bechol zman she'anu olim bedargat ha'teshuvah, que nous devons veiller à chaque fois que nous montons dans les niveaux de la teshuvah, achuzim yafeh gam ba'anafim ha'ma'asim, nous devons être bien attachés aux branches pratiques. Vesicham vesigam, et à leur contenu, hegyonotehem ou shifotehem, leurs réflexions et leurs aspirations. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je fais teshuvah que je dois cesser de veiller à ma vie pratique, aussi bien au niveau économique que social, que politique même. Ou les ha'alot otam yachad, et les faire monter ensemble. Im aliyat ma'utenu, en même temps que l'ascension de notre essence, l'imrom ha'atzilut va'itnas'ut advikut amikorit. Au sommet de la noblesse et de l'élévation vers l'attachement à l'origine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier tous les acquis de ce monde. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout a la même origine. Qui sauf, car en fin de compte, Hare kama she'achayim itpashtu, même si la vie s'est beaucoup épanchée, la vie aussi a son origine dans la lumière d'origine. Et les acquis de la vie doivent revenir avec leur auteur suprême en même temps que notre essence de l'âme. Et donc nous ne montrons jamais dénués de valeur. Et nous n'allons pas échouer par affaiblissement de notre force. Nous ne montrons pas aux hauteurs dans la nudité, c'est-à-dire dans le dénuement. Parce qu'avec nous, nous prenons les acquis de nos revêtements, rabbe agvanim veashire hatsevaim, qui sont pleins de couleurs et riches en coloration, asher achashnu lanu beitpashtutam shel hachaim kulam, que nous avons acquis dans l'épanchement de toute la vie. Vinenu olim ubaim bayamim, et nous montons et venons dans les jours. C'est une expression biblique. On dit d'Abraham qu'il était vieux, ba bayamim, avancer dans les jours. Ce que dit le Rav Kook, c'est-à-dire que nous avançons avec les jours. Imkol toldot amifal, avec toutes les conséquences de notre action, hamaase v'achayim asher imahem, les actions et la vie que cela comporte. C'est-à-dire ce que nous dit ici le Rav, c'est que les acquis que nous avons acquis pendant notre existence, toutes les œuvres, parfois vous savez, les artistes se disent « j'ai fait une production artistique extraordinaire, maintenant je fais teshuvah, est-ce que je laisse tomber tout ça ?» Alors si le Rav est intelligent, il lui dira « non, au contraire, toute ta production artistique doit maintenant retrouver son origine, doit être rebranché sur sa source. » Donc ce n'est pas seulement l'individu qui fait teshuvah, c'est l'ensemble de sa vie, de ses acquisitions qui font teshuvah. C'est-à-dire c'est une invitation à l'élévation de tout, de toute la culture et de toute la civilisation à laquelle le Rav nous invite ici. Eh bien, donc nous avons déjà fait Vav Astérix, Zayin, Chet et Chet 1. Je pense qu'il n'y a pas le choix, nous devons passer de l'heure à tête. Bon, si on a bien compris ce que nous avons vu jusqu'à présent, le passage tête sera relativement facile à comprendre. Amusar bekolo ha'elohi ba'letoch hanshama michaye kol ha'olamim kulam. La morale, dans sa voie divine, vient dans la neshama à partir de la vie de tous les mondes. Bon, c'est quoi Amoussar Bekolo Elohi? La morale dans sa voie divine. Il y a ici une sorte d'écho de la philosophie kantienne. Vous savez que pour Emmanuel Kant, la morale n'a pas sa source en Dieu. La morale est ce qu'on appelle un impératif catégorique de la raison. C'est-à-dire toute personne raisonnable comprend de manière impérative qu'il est engagé par rapport à la morale. La morale est un impératif catégorique. Ça ne veut pas dire que Kant ne croit pas en Dieu. Kant était un croyant. Cependant, ce qu'il nous dit, c'est que la morale est indépendante de cela. Il faut être moral, que l'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. De toute manière, la moralité est un impératif catégorique. Ça a l'air assez séduisant comme idée. Mais le Rav Kook dans Orot HaKodesh explique très profondément que la morale, si elle n'a pas une référence au divin, pourra tenir un certain temps, mais pas éternellement. Effectivement, on voit que ce qu'a pensé Emmanuel Kant, c'est que, étant donné qu'il était lui-même un très grand philosophe, et lui-même un homme extrêmement moral, il s'est dit qu'il y avait probablement un rapport entre sa moralité et sa grandeur philosophique. Il s'est dit, mais ce n'est pas par hasard que je suis un grand philosophe, c'est parce que je suis allemand et que l'Allemagne est la civilisation la plus élevée du monde. Et donc, plus on sera véritablement philosophe, c'est-à-dire véritablement allemand, plus on sera moral. Je pense qu'après un certain temps, après un siècle et demi, après ce qu'a dit Kant, je crois que l'Allemagne n'a pas totalement révélé cette capacité de moralité. Or, c'est ce que disait le Rav Kook, quand il disait « la morale ne pourra pas tenir sans son origine ». Attention, ça ne veut pas dire que la morale a son origine dans la Torah. La morale vient d'ailleurs, mais elle a besoin d'une référence au divin pour continuer sa permanence, pour avoir sa permanence d'existence. Et donc, il y a une voie morale en moi qui a son origine en Dieu. C'est ce que dit ici le Rav Kook, « Amoussar bekolo ha-Elohi », la morale dans sa voie divine, voie V-O-I-X. « Ba letoch ha-Neshama » s'introduit dans l'âme, « Mechaye kol ha-Olamim kulam » à partir de la vie de l'ensemble des mondes. C'est ce qui revient à l'idée qu'on avait vu plus tôt, qu'il y a ce qu'on appelle cette poussée qui vient de l'extérieur et qui rentre dans l'intériorité. Ha'avaya, hi bichlaluta beloshumret. L'ensemble de l'être est dans son ensemble dénué de péché. Achet, umatsu irak, berech apratim. Le péché ne se trouve que dans les détails, dans les individus. Avala klal, hakol, Matim l'harmonia nitzrit, mais l'ensemble de tout correspond, est en accord avec l'harmonie éternelle. Vea maasim sharmonia nitzrit nidgala liadam, hem hinam amaasim ateori. Et les actes qui révèlent l'harmonie éternelle, ce sont les actions pures. Ameshulali mikol chet avod vapesha, qui sont dénués de tout péché. וחיים כאלה שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. Une telle vie qui engendre de telles actions, c'est cela l'exigence de la neshama, והיא משיגה אותם באור מקור חיי כל החיים, et elle acquiert cette vie grâce à la lumière de l'origine de toute vie de vie. Et מקור יפעת אור אינסוף, non, pardon, Or, Mekorif Ator Edsof, la lumière qui tire son origine dans l'illumination de l'infini, Shielav Kolkar Shikuka, qui y aspire tellement, Kshura Veoreget Ben Ketz Vetachlit, qui est attaché et qui languit infiniment, Bitshuva Ila Bechofesh Elion, dans une Teshuva supérieure totalement libre. C'est-à-dire, la Teshuva vient à l'origine de ce qu'on appelle une soif métaphysique de liberté, Be'alitzut d'eror, dans la joie de la liberté, ou Ve'cherdat Kodesh Kodashim, et dans le tremblement de la sainteté absolue, Melea Chochmat Olmei Olamim, rempli d'une sagesse cosmique. Bon, donc ce que dit ici Laura, c'est une idée que nous avons retrouvée plusieurs fois. C'est cette idée qu'en fait, il y a une aspiration dans la très grande profondeur, dans la profondeur, pourrait-on dire, primordiale de l'être, une aspiration à l'infini. Pourquoi la notion de liberté ici? Ah, c'est très intéressant, parce que l'origine est un acte de volonté, c'est-à-dire l'acte de la création n'est pas contraint, il n'est pas nécessaire, et donc c'est un acte libre. Là où il y a liberté, il y a morale. Donc si je suis profondément moral, une partie intégrante de cet idéal moral, c'est la recherche de la liberté.
Alors,
oui.
Les règles de la morale, elles sont écrites dans la Torah.
Ah, tu reviens encore sur ce truc-là ?
Et je suis bloqué.
C'est absolument incroyable.
Je
pourrais parler pendant des années que la morale n'a pas son origine dans la Torah, ça ne servira jamais à rien. Tous les religieux continueront à prétendre que c'est la Torah qui est le fondement de la morale. C'est absolument incroyable. Alors, je tiens ici à bien préciser, la morale précède la Torah. C'est un grand principe que nous ont enseigné nos Chachamim, quand ils nous disent « Derech Eretz » Kadma la Torah. La morale a précédé chronologiquement la Torah. Effectivement, ce n'est que lorsque l'humanité a accédé à un certain niveau de moralité que la Torah a pu être donnée. C'est pour ça que la Torah n'a pas été donnée à l'origine de l'histoire. Je pense que c'est une évidence. Donc les règles de la morale ne sont pas écrites dans la Torah. Ne serait-ce que pour un truc tout bête, hein, on peut dire sur le plan de la logique. Nous exigeons de tous les goyims d'être en accord avec la morale et nous ne donnons pas la Torah aux goyims. Donc, si on ne veut pas être absurde, cela implique que la morale est antérieure à la Torah.
Alors, pourquoi la morale n'est pas la même chez tout le monde arabe ?
La morale est la même chez tout le monde. Les principes de la morale sont universels. Seulement, il y a des diversités dans les modalités d'application. Et tout le monde est d'accord que l'assassinat est un mal. Tout le problème sera de définir qu'est-ce qu'est l'assassinat. De même, tout le monde comprend que la débauche est un mal. Tout le problème sera de savoir quelles sont les limites, etc. En fait, on peut dire qu'après plusieurs milliers d'années, l'humanité a réussi à s'adapter à un système de valeurs morales qu'on peut appeler universel. Alors, évidemment, il y aura parfois ce qu'on appelle des retraits, il y aura des chutes, il y aura une déficience morale dans certaines sociétés. Mais dans l'ensemble, il y a une évolution générale de la moralité qui fait qu'on peut parler de morale universelle. Même par exemple, les nazis, Mahshemam, se sont opposés à Israël parce que Israël représentait la morale. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'était un refus moral de la morale. Et ce qui veut bien dire que la morale était identifiée. Oui.
Alors, il y a des peuples, par exemple en Arabie Saoudite, etc., qui ont des valeurs qui sont complètement différentes du monde occidental et des valeurs qui nous paraissent, nous, normales. Et on ne parle pas de dizaines de personnes, on parle de millions de personnes.
Oui.
Donc leur morale.
Il y a une évolution générale de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accumulation de l'expérience morale dans l'histoire qui fait que graduellement, même dans ces sociétés qui sont en décalage par rapport à notre morale, il y a une sorte de mouvance générale de l'histoire qui fait qu'on accède finalement à une moralité. Voilà, je pense avoir mis les choses bien au clair et bien au point. J'étais assez surpris, je pense que tu as fait exprès. Voilà, plus ou moins. Eh bien, nous nous reverrons au Bezrat Hashem pour la prochaine rencontre. À bientôt.
Au revoir, cher Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.